Je vais vous raconter une histoire qui va nous introduire à la notion de l'hiver, comment l'hiver est arrivé sur la Terre. Parce que je trouve que c'est un thème de circonstance, hein, même si aujourd'hui où j'enregistre, il fait un peu moins froid que les jours précédents. Donc en fait, cette histoire, c'est un mythe qui s'appelle Perséphone et Déméter, qui est l'un des grands mythes grecs. Et voilà l'histoire. Perséphone, elle adorait sa mère. Il faut dire que sa mère, c'était une belle femme, hein, blonde comme les blés, pleine de vie, généreuse, puissante, et elle était une déesse. Elle était une immortelle. C'était plus précisément la déesse de la terre, au sens de la fertilité des sols. C'est elle qui faisait pousser les céréales et qui était responsable aussi des moissons. Autant vous dire qu'elle était étroitement liée à la vie de l'univers, au cycle de la naissance et de la mort. Vous savez, cette éternelle histoire de la graine qui germe dans la nuit de la terre. Donc telle était la relation entre Perséphone et sa mère. Quant à Déméter, eh bien, elle était, mais littéralement, folle de sa fille. Elle l'aimait, mais à la folie. On aurait presque dit qu'elle était le centre de sa vie. En tout cas, quand elle rentrait de son travail sur la terre, eh bien, elle se précipitait pour retrouver sa fille chérie qu'elle avait eue avec Zeus, lui-même le dieu des dieux, avec qui elle avait eu, à vrai dire, une relation assez brève. Et donc, vous imaginez, Perséphone, elle était la fille du dieu des dieux et de la déesse de la fécondité. Alors bien sûr qu'elle-même, c'était une beauté, mais une beauté. Comment vous dire? Elle était fraîche, comme un bouton de fleur, et puis rosée, comme les fruits qui mûrissent au soleil. Mais quand même, dans la relation entre Déméter et Perséphone, entre la mère et la fille, à vrai dire, il y avait une ombre. C'est que Déméter surprotégeait sa fille. D'abord, elle n'était entourée que de créatures féminines, des nymphes. Et puis, quand Perséphone demandait à sa mère de lui laisser un petit peu plus d'espace, de liberté, de nos jours, on dirait « lâche-moi » ou bien même « tu me gaves », enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, Déméter, sa mère, refusait. Elle lui disait « mais tu es bien trop jolie, ma fleur d'amour. Il pourrait t'arriver un malheur. » Et alors, ça, vraiment, moi, je ne le supporterais pas. Et elle prenait sa fille dans ses bras et elle la serrait contre son cœur. Mais Perséphone, au départ, elle restait un petit peu rétive, un peu sur la défensive, et puis, ma foi, très vite, elle lâchait. Et leurs deux cœurs, à nouveau, battaient à l'unisson. Et puis, finalement, à force d'insister, de demander encore, eh bien, finalement, donc, Perséphone a obtenu de sa mère qu'elle puisse aller se promener seule, c'est-à-dire sans elle, sur la terre. Il faut dire que le moment était propice parce que Déméter devait justement descendre sur la terre pour s'occuper des semences. Alors, elles y sont allées toutes les deux, Perséphone avec toute son équipe de nymphes autour d'elle. Et à un moment, eh bien, Perséphone a bifurqué avec ses amis. Et c'était un jour de printemps, comme on peut en rêver dans la grisaille des jours de l'hiver. Le ciel était bleu, lumineux, ensoleillé. Et puis il y avait une espèce de fraîcheur et de douceur en même temps. Et Perséphone, mais elle était plus belle que jamais. Elle était superbe. Et donc, entourée de ses amis, elles sont arrivées dans une très grande et très belle prairie où éclataient des fleurs de toutes les couleurs. Il y avait des crocus, des jacinthes, des iris, des roses, enfin de quoi composer de somptueux bouquets que Perséphone pourrait offrir à sa mère. Alors, effectivement, elle s'est mise à cueillir des fleurs. Et voilà que, soudain, son regard a été attiré par une fleur. Mais extraordinaire au sens propre du terme, une fleur différente de toutes les autres qu'elle n'avait jamais vue. Elle était à la fois mystérieuse et magnifique. Elle était rouge et argentée. Alors, Perséphone s'est approchée d'elle pour mieux la voir et puis elle s'est penchée sur elle pour la sentir. Et là, un large sourire a illuminé son visage, et on aurait dit que toute la terre souriait avec elle, que le ciel entier souriait, que le gonflement des eaux sur la mer souriait aussi. Alors, elle a tendu le bras pour faucher, pour cueillir la fleur. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que la terre, subitement, s'est ouverte sous ses pieds. Elle a formé un trou béant dans lequel Perséphone a disparu en poussant un cri de terreur. Et les nymphes qui étaient un peu plus loin, épouvantées, se sont mises à hurler elles aussi. Alors Déméter, à ce moment-là, elle se trouvait de l'autre côté de la terre, mais moi je pense qu'elle devait avoir un sixième sens, peut-être le sens de la mère, qui entend toutes les douleurs secrètes de son enfant, ou alors peut-être que c'était un troisième œil que possèdent les déesses. En tout cas, elle a entendu le cri de sa fille. Alors, folle d'inquiétude, elle s'est précipitée. Et quand elle est arrivée, elle a demandé aux nymphes, mais que s'est-il passé? Mais les nymphes n'ont rien pu lui dire d'autre que ce que je viens de vous raconter. La terre s'était ouverte et avait engloutit Perséphone. Alors, lorsque le sens de ces mots a réellement percuté les neurones de Déméter, quand elle a vraiment imprimé le message, vous savez, quelquefois il faut un temps pour réaliser vraiment ce qu'on entend. En tout cas, à ce moment-là, mais elle a poussait elle-même un cri, c'était comme un cri d'animal blessé, un cri qui montait du fond d'elle-même, du fond de ses entrailles. Et puis elle s'est jetée sur le sol et elle était secouée par les sanglots et par ses hurlements. En réalité, elle était devenue folle de douleur. Et ma foi, elle l'est restée. Elle est restée folle de cette douleur pendant 9 jours et 9 nuits, au cours desquelles ni elle n'a mangé ni elle n'a bu et elle ne dormait qu'un minimum. Elle errait partout, dans une détresse totale. En cherchant sa fille bien-aimée, si bien qu'elle qui avait été, je vous l'ai dit, une si belle femme, eh bien d'un coup elle a vieilli et elle est devenue, mais réellement, méconnaissable. Et puis, c'est le dieu Hélios, le dieu du soleil, qui au moment où il sortait son char pour commencer sa course du jour, a rencontré Déméter et réellement la détresse immense qui émanait de cette mère l'a touché au cœur, à son cœur de soleil, si on peut dire. Alors il a décidé de lui dévoiler la vérité. Et il lui a dit qu'en réalité, Perséphone avait été enlevée par Hadès, le dieu des enfers lui-même, parce qu'il en était tombé éperdument amoureux lorsqu'il l'avait vue quelques jours plus tôt, et il voulait absolument en faire son épouse. Et puis Hélios a aussi ajouté que, en réalité, Zeus, le dieu des dieux, était parfaitement au courant de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui s'était tramé, et qu'il avait laissé faire. Sans doute a-t-il commenté, parce qu'il lui était difficile de s'opposer à la puissance de ce frère. Le dieu des enfers est un dieu qui a beaucoup de pouvoir. Alors à nouveau, quand elle a compris le message, Déméter a été, mais atterrée. Sa fille tant aimée, qui était condamnée à vivre le reste de ses jours dans ce pays d'en dessous, dans ce pays des ténèbres, et Zeus, lâche de Zeus, qui n'avait pas eu le courage de lever le petit doigt pour éviter à sa propre fille de descendre aux enfers. Alors cette fois, c'est une colère. Mais une colère titanesque, volcanique, qui est montée du fond de Déméter. Et elle a décidé, alors je vais vous le dire en langage moderne, elle a décidé en quelque sorte de se mettre en grève. Ni elle ne reprendrait plus sa place parmi les dieux de l'Olympe, ni elle n'assumerait plus ses responsabilités sur la terre. Alors, ça a été mais une terrible catastrophe pour la terre tout entière. Plus rien ne poussait. Les fleurs s'étaient fanées, les fruits s'étaient desséchés. Les arbres, les plantes s'étaient dépouillés de leurs feuilles. Et là où auparavant il y avait le blé, eh bien il n'y avait plus que de l'herbe séchée et de la paille. Si bien que les animaux n'avaient plus rien à manger, si bien naturellement que toute la chaîne de la vie en a été affectée. Et les hommes eux-mêmes, commençait à être affamée et à dépérir. Et les hommes, vous savez, quand ils se trouvent en situation de danger vital, souvent ils se tournent vers leur dieu. Et là, effectivement, les hommes ont supplié Déméter, eh bien, de leur venir en aide. Mais Déméter, c'était vraiment comme si elle avait purement et simplement disparu du paysage. Elle s'était volatilisée. C'est à ce moment-là que Zeus a décidé de réagir quand même. C'est qu'en réalité, il n'avait aucune espèce d'envie que l'espèce humaine disparaisse de la planète Terre. Or, il y avait un danger réel. Si bien qu'il a fait ce qu'il faisait souvent en cas de difficulté. Il a fait appel à son, j'allais dire son ministre, non, son dieu de la communication, qui s'appelait Hermès. Et il lui a demandé d'aller voir le dieu de l'enfer, Hadès, son frère, pour lui demander de lâcher Perséphone. Et donc Hermès a rempli sa mission. Et contrairement à toute attente, Hadès a accepté de lâcher Perséphone. C'est qu'en réalité, Perséphone, depuis qu'elle était avec lui, elle ne cessait de pleurer. C'était une véritable fontaine. Elle n'avait rien contre lui, lui disait-elle. Mais elle voulait retrouver la lumière. Elle voulait retrouver la terre. Elle voulait retrouver sa mère. Et puis, vous savez, comme on peut être désemparé devant les larmes, peut-être surtout les hommes devant les larmes des femmes, alors Hadès se sentait mais totalement démuni. Et puis, réellement, sincèrement, il était amoureux de Perséphone. Et il était malheureux d'être témoin d'un tel chagrin, même s'il en était à la source. Et puis, la troisième raison, c'est que dans l'état de prostration dans lequel se trouvait Perséphone, il était évidemment impossible d'envisager une quelconque vie de couple. Alors, Hadès s'est tourné vers Perséphone et lui a dit « Bon, je ne peux pas supporter plus longtemps de vous voir aussi malheureuse. Alors, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, retournez donc chez votre mère. » Et là, vous voyez, quand elle a entendu ça, Perséphone, alors ça a été immédiat, radical, instantané. Elle a retrouvé le sourire, ses larmes ont séché, et puis elle s'est mise directement à suivre Hermès pour sortir des enfers, tant elle était heureuse à l'idée de revoir la lumière, le monde de la lumière et sa mère. Mais comme elle n'avait pas mangé, elle non plus depuis tout ce temps, eh bien ma foi, cette fois, subitement, elle a retrouvé son énergie, en même temps que son énergie, un bon creux à l'estomac. Alors elle a glissé la main dans sa poche et elle y a trouvé une grenade que lui avait donnée Hadès. Et donc, elle l'a portée à sa bouche. Sans trop réfléchir, elle a croqué dans le fruit, mais Hermès s'est précipité sur elle en lui disant « Mais crache ça tout de suite !» C'est que la règle des enfers dit que quiconque a goûté les fruits des enfers ne peut plus en sortir, est condamné à y rester. Or, Perséphone avait avalé 3 pépins de la grenade, si bien que logiquement, elle ne pouvait plus sortir des enfers. Mais Zeus, le dieu des dieux, est intervenu à nouveau et je vais vous passer les étapes du ballet diplomatique qui a eu lieu entre donc lui et Hadès, orchestré par Hermès. En tout cas, finalement, il a été proposé et accepté que puisque Perséphone n'avait mangé que 3 malheureux petits pépins de grenade, eh bien, qu'elle ne ferait qu'un séjour tous les ans de 3 mois dans le pays des ombres et que le reste du temps, elle pourrait vivre dans l'autre pays, dans la lumière et avec sa mère Déméter. Et Perséphone a accepté cette proposition. Mais Déméter, elle n'en démordait pas. Alors elle s'est tournée vers Zeus et elle lui a crié « Bon, eh bien, puisque ma fille me sera retirée 3 mois de l'année, eh bien moi aussi, je vais me mettre en retrait et je ne travaillerai plus pendant ces 3 mois. » Et c'est comme ça que l'hiver s'est installé sur la terre. Parce que pendant que Déméter pleure sa fille retenue aux enfers, eh bien, plus rien ne pousse sur la terre. Les fleurs, les fruits se dessèchent ou se fanent, et puis les arbres, les plantes se dépouillent. En fait, tout paraît mort, alors qu'en réalité, comme vous le savez bien, tout n'est qu'endormi et prépare le printemps, parce que vous savez sûrement que les arbres, l'hiver, ils produisent des petits bourgeons qui vont jaillir et se déployer au printemps. En tout cas, quand Perséphone retrouve sa mère, eh bien, tout refleurit à nouveau, la vie jaillit à nouveau et c'est à nouveau le printemps sur la terre. Et c'est ainsi que s'est mis en place le cycle des saisons. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Je vous l'ai dit au début, c'était pour introduire la notion du cycle des saisons et vous avez dû attendre un moment pour voir le rapport dans l'histoire avec l'arrivée de l'hiver. Et moi j'ai trouvé que cette notion de l'hiver qui paraît être la mort, mais qui n'est qu'un endormissement, qui va donner lieu à une nouvelle naissance, en tout cas moi je trouve ça très encourageant. Comme notion, comme vision de la mort. Parce que je me dis que si la mort elle-même, finalement, ça n'est peut-être qu'un passage pour une autre vie, bon, c'est pas une fin suprême, quoi. Donc voilà, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je trouve qu'elle est intéressante aussi au niveau des relations humaines qui se trament là. Dans cette histoire, par exemple, qui parle de la bonne distance à trouver dans la relation, là, entre Déméter et Perséphone, entre la fille et la mère, parce que tant que Perséphone est trop collée à sa mère, c'est-à-dire tant aussi que sa mère ne la lâche pas, eh bien, elle est incapable d'avoir une vraie vie de couple. Et ça, je crois que tous les psys de France et de Navarre iront dans mon sens. Et puis, c'est aussi l'histoire, j'ai lu ça récemment, de l'évolution de l'amour d'Hadès lui-même. Parce que Hadès, tout dieu des enfers qu'il est effectivement amoureux de Perséphone, mais d'une façon qu'on peut dire dominante et tyrannique. Et la suite du mythe, c'est que Perséphone va réellement devenir son épouse et qu'elle va réellement trouver sa place auprès de lui. Et que donc, Hadès évolue d'un amour d'abord très possessif à une relation d'amour qui est beaucoup plus mature et équilibrée. Et ça aussi, je trouve ça assez encourageant. Qu'on soit dominant ou dominé. Et puis, la troisième raison, alors ça se touche peut-être plus à une notion de transcendance, c'est qu'est-ce que c'est que les enfers en réalité? J'y ai beaucoup réfléchi. Et moi, j'y vois trois sens possibles. Pour moi, l'enfer, quand je dis c'est l'enfer, c'est que je traverse un moment très douloureux, difficile à vivre, dans lequel je me sens littéralement enfermée et prisonnière. Je me dis, mais c'est l'enfer. Ça, c'est une première acception du terme. La deuxième, c'est une définition plus religieuse. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans d'autres religions, mais dans la religion chrétienne, l'enfer, eh bien, c'est la sanction éternelle de la souffrance pour ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pendant leur vie terrestre, envers Dieu, apparemment. Enfin, je ne me lancerai pas trop dans plus d'explications, mais c'est une vision extrêmement sombre de l'au-delà. Alors que l'enfer, on peut aussi le voir dans une dimension plus large de spiritualité, peut-être, comme tout ce qui est non relié à notre nature profonde, à notre nature divine profonde. C'est-à-dire quand on a oublié qui l'on est profondément, que ce soit de notre vivant ou de notre mort. C'est-à-dire quand on a oublié notre essence divine, eh bien, on peut considérer que c'est une forme de limitation qu'on peut appeler aussi l'enfer. Et dans ce sens-là, eh bien, la descente de Perséphone aux enfers, c'est comme la chute de l'homme qui passe d'un univers divin à un monde humain où il est enfermé. Et il y a un espoir dans la mesure où Perséphone, finalement, va réussir à sortir et à re-rentrer. Enfin, vous y réfléchirez vous-même.